On est avec Vincent Maël Cardona pour son film Les Magnétiques, qui sort aujourd'hui en salle. Les Anglais ont un terme super pour parler de ce genre de film, qui s'appelle Coming of Age. C'est un film d'initiation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces rites de passage? Qu'est-ce que tu as voulu intégrer dans ces rites de passage de l'adolescence, hein? C'est un film clairement sur l'adolescence et le passage à l'âge adulte.
Ils sont un tout petit peu plus vieux, c'est-à-dire il a 20 ans, donc il est déjà garagiste, hein, ouais. Dans le film. C'est pas tout à fait l'histoire d'un adolescent qui devient adulte. Pour moi, c'est plutôt l'histoire d'un jeune adulte qui va découvrir le métier de vivre plutôt. C'est-à-dire ça, c'est l'expression un peu de Pavèze. C'est la vie dans ce qu'elle a, dans son âpreté, dans ce qu'elle a d'un peu dur. Il va le découvrir à l'occasion d'un drame qui va le bouleverser, mais aussi, et ce qui renforce l'idée d'un récit d'émancipation c'est à travers le passage du service militaire, qui est pour le coup une forme de rite initiatique,
hein, ouais, bien sûr.
En tout cas une institution qui a structuré notre société pendant très longtemps. Et moi, j'ai toujours été surpris du peu de cas, finalement, que le cinéma français a consacré à cette institution. Finalement, il y a très peu de films quand on se documentait pour écrire Les Magnétiques, parce que c'est un film qu'on a écrit à plusieurs, hein, c'est une écriture collective.
Vous étiez combien, pardon?
On était 6, 3 garçons, 3 filles,
okay.
Tous nés au début des années 80.
Voilà.
C'est aussi il y a un point de vue un peu générationnel sur cette époque. Et on a été peinés, en fait, de trouver des films qui traitaient du service militaire. Il y en a très peu. Il y a très très peu de choses qui ont été faites, non pas sur le service militaire dans un film de guerre, quoi, mais dans un film qui ne traite pas de la guerre, mais qui traite au contraire de l'institution elle-même, des trois jours, les classes, etc.
Tu as des références de films donc sur le service militaire?
Très peu, ouais. Justement. C'est bien la question. Et moi, c'est ça qui m'interpelle, parce que finalement, à part N'oublie pas que tu vas mourir, peut-être, de Xavier Beauvois, où il y a un petit passage encore assez court, hein, au début du film sur le service militaire, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et je pense que, enfin, je saurais pas, je l'ai pas analysé, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est un peu un absent, c'est un peu un quelque chose qui n'a pas été ausculté, alors que ça concerne quand même énormément de gens, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens, essentiellement des garçons, évidemment, hein, qui ont vécu ça, mais aussi beaucoup les femmes, les mères, les sœurs, enfin, encore une fois, c'était quelque chose qui était au cœur, au centre de notre organisation sociale, qui a disparu. Je crois que la signature du décret de la fin du service militaire, c'est 97. Et depuis, il y a quasiment rien. Et on continue et on fait comme si de rien n'était, comme si on pouvait enchaîner, passer à autre chose, comme si ça n'avait pas d'incidence. Or, je pense, moi, que ça a une incidence très importante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient homme aujourd'hui, alors par d'autres biais, différemment, mais la question est ouverte.
Tu as voulu poser le regard de la masculinité avec ce film?
Alors, il y a aussi effectivement quelque chose sur la masculinité, absolument, parce que le film se situe dans cette période qui est donc le tout début des années 80, donc c'est la fin du monde des années 70.
Le film commence avec l'élection de Mitterrand, hein, quasiment.
Hein. Exactement, et qui a un marqueur pour le
bien
coup
sûr,
historique très,
évidemment,
très important et très net.
Bien sûr.
Mais c'est la fin, au-delà de ça, c'est aussi la fin du monde, ce que moi j'appelle le monde analogique, et c'est le crépuscule de ce monde-là. On est juste avant le début de la révolution numérique, on n'y est pas encore. Le film s'achève.
C'est encore loin quand même, en 80-81.
Eh ben, tu sais, 82, c'est le début de la commercialisation massive du CD, en fait.
D'accord.
1982. Et donc après, la révolution numérique, elle commence dans les années 60, en fait, hein, de manière souterraine. Elle va exploser dans le cours des années 80. Et les années 90 sont souvent la décennie qui est un peu le repère par rapport, effectivement, à l'arrivée de ce monde numérique. Mais pour moi, s'il y a une ligne de fracture, s'il y a un endroit où ça se joue, c'est vraiment à ce moment-là, le début des années 80. Et je crois entendre, et j'essaye de faire entendre cette rupture, cette fracture, par la musique, dans la scène, dans l'effervescence musicale, artistique de cette époque-là. Comme si, là, il y a une avant-garde, une jeunesse qui perçoit, qui perçoit quelque chose, qui sent quelque chose, qui est en train de changer, qui est en train de basculer et qui va façonner le monde, notre monde aujourd'hui, notre monde actuel. Et c'est en ça que pour moi, ce moment-là, c'est un peu la matrice de notre époque. Et c'était pour moi, c'est un premier film. Donc un premier film, bah, on va là où c'est très très important. Et pour moi, c'est en ça que c'est très important ce moment-là.
T'es un enfant des années 80, même plus que ça. Tu es né en 1980, donc oui. Tu n'as pas connu le service militaire et tu n'as pas connu l'époque que tu décris. Alors, est-ce que tu te décrirais comme un nostalgique ou est-ce que finalement, enfin, c'est pas ça qui t'habite pour le film.
Je me décris comme un nostalgique, mais d'une certaine manière, je suis attentif et intéressé par le fait que la génération qui a 20 ans aujourd'hui, donc on va dire la jeune génération,
les millennials,
voilà, est elle-même nostalgique de cette période.
Et on est toujours nostalgique d'une période qu'on n'a pas connue.
Alors moi ça m'intéresse.
Ouais.
Cette notion, être nostalgique d'un monde qu'on n'a pas connu. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ouais.
Et c'est pas neutre. Et ça parle beaucoup des oublis, de la frénésie dans laquelle on a pu être, de cette croyance un peu exagérée dans le fait que la technologie, le progrès, demain va nous apporter d'une manière ou d'une autre les solutions aux
problèmes
d'aujourd'hui.
C'était vrai dans les années 60, dans les années 80, dans les années 2000, etc.
C'est une très longue histoire. Hein. C'est une très très longue histoire. Et là, on arrive à un moment où cette très longue histoire est problématique. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Pour s'en sortir maintenant, là, il va falloir qu'on revoie un petit peu notre rapport à la nostalgie et qu'on commence à comprendre que être nostalgique, ça a quelque chose de futuriste. Voilà comment je vois les choses pour te dire voilà la vérité.
Tes personnages et ton personnage principal en l'occurrence, il regarde beaucoup vers le futur, il l'appréhende avec difficulté, il navigue pas en eau trouble mais voilà, dans un flou complètement incroyable. Et il finit par se trouver. C'est pour ça que moi je le rapproche d'un roman, enfin d'un film d'initiation et de passage
différent. Philippe Bichon, il n'arrive pas à parler. C'est d'abord ça.
Oui,
c'est un film sur la prise de parole.
Ouais.
C'est le film d'ailleurs est une émission de radio. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de ce film à la radio, parce que mais radio presque au sens même original, c'est-à-dire le message qu'on met sur les ondes comme une bouteille à la mer. On parle là, tu vois, on parle tous les deux, on ne sait pas si quelqu'un nous entend, nous entend pas, va nous entendre ou pas. J'aime beaucoup cette identité première de ce que c'est que la radio au fait. C'est parler. Et puis peut-être on nous entend, peut-être on nous entend pas. Il y a de ça aussi dans ce que c'est qu'un premier film. Et en tout cas, pour Philippe, le personnage principal, c'est un peu sa trajectoire. Comment il va passer d'un état de... C'est le technicien d'une radio pirate, on l'entend pas, on le regarde pas. Il a du mal à s'exprimer, il a du mal à parler, il
sait
pas parler. Et c'est comment, à travers les épreuves de la vie, il va être amené à se verticaliser d'une certaine manière, à commencer à parler, à prendre la parole, à poser des mots, à parler à quelqu'un. On va pas dire c'est bon, c'est histoire de... à son frère. On peut dire c'est une histoire d'amour entre deux frères. Et comment, à travers cette histoire d'amour, il va pouvoir effectivement commencer à s'exprimer sans le truchement de la technique, parce que c'est un geek, c'est quelqu'un qui a un rapport très très fort à la technique, très très fort au son. Et comment là, effectivement, il va trouver un peu quelque chose qui va lui donner la foi, la force et l'envie de continuer la route.
Il y a deux scènes où justement, tu parles de geek, tu parles de technicien. Il y a deux scènes clés dans ton film avec ce personnage principal. Une où il jongle avec des cassettes presque en fait pour créer du son et séduire une fille. On est aussi dans cette période de séduction. Et une un peu plus loin dans le film où évidemment là, on est dans quelque chose de beaucoup plus expérimental. On est dans une radio professionnelle et il tente quelque chose de très expérimental. Comment tu as travaillé pour faire ces deux scènes? Est-ce que tu les as travaillées de manière différente?
Oui, alors typiquement, ces deux scènes ont été travaillées de manière complètement différente des autres scènes du film. Et de manière plus générale, elles ont été travaillées de manière très différente par rapport à comment on aborde des scènes au cinéma. C'est-à-dire que là, on a dû on est obligé par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que ce personnage principal bidouille, bricole avec la,
c'est un bricoleur,
avec la technique, avec le son, c'est quand même très particulier ce qu'il fait.
C'est très beau. Hein.
Et qui se rapproche de plein de choses. Enfin, voilà, nous, on s'est inspiré de plein de choses.
De quoi?
Notamment, par exemple, t'as le tu sais, la pièce de Steve Reich, la Pendulum, où il fait balancer des micros au-dessus d'une enceinte pour générer de la scène et ensuite en faire quelque chose. Donc ça, il fait ça.
Bien sûr.
Tu vois de quoi je parle dans la scène. Mais ça peut être aussi toutes les manipulations de bandes magnétiques qu'on a connues avec, par exemple, Robin Grissel au début, Sleazy, les pionniers, en gros, de la musique industrielle. Enfin, il y a plein de choses.
Et puis moi, ça m'a fait penser à du DJing, en fait, de mixer.
Il y a une part de il y a du scratch.
Avec des bandes magnétiques, ouais.
Voilà, donc c'est un peu une sorte de condensé qui, pour moi, parle de ce rapport primitif qu'on a avec la technique et qui va nous envahir progressivement, puisque aujourd'hui, on est tous complètement fusionnels. On a tous des petits ordinateurs incroyables dans la poche avec lesquels qui modifient notre rapport au monde. Donc là, c'est une sorte de vision un peu proto-futuriste de notre rapport à la technique à travers ce personnage qui est au fond un romantique. Voilà, donc un romantique, c'est quelqu'un qui va chercher à exprimer ce qu'il a sur le cœur et qui va avoir énormément de mal à le faire, mais qui va le faire d'abord par le truchement de la technique dans les scènes dont tu parles, et puis après sans technique, à voix nue, directement dans une prise de parole qui va être une prise de parole radiophonique enregistrée, quoi.
Dernière question, moi j'ai beaucoup aimé ton casting. Comment tu as procédé à la recherche de tes personnages? C'est que des inconnus.
Alors,
ou presque.
C'est ce qu'on appelle effectivement un casting de révélation.
Ouais.
Donc là, la chance qu'on a eue d'une certaine manière, c'est de pas.
Ça va se voir au César, tout ça.
J'espère pour eux, j'ai le mérite. Ils sont effectivement, ils sont extraordinaires.
Ils sont très bien.
Ces jeunes comédiens. Et donc on. Écoute, c'est simple, on voit beaucoup de monde, du coup, forcément, beaucoup de monde partout, des écoles, dans la rue, les écoles de théâtre, les agents. Et puis on prend le temps, et j'ai eu la chance aussi d'avoir des producteurs qui m'ont laissé prendre le temps d'aller à la rencontre des personnages du scénario. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur Timothée Robard, Marie Collomb, Joseph Oliven, pour ne parler que du
personnage
triangle magnétique de notre histoire.
Merci beaucoup, Vincent Maël Cardona, pour avoir passé un petit peu de temps avec nous. Donc c'était le réalisateur du film Les Magnétiques. Merci beaucoup.
Merci.